Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, un moment encore une fois que nous savons riche et approprié pour notre bien-être spirituel et pour la vie que nous menons sous ton regard. Nous prions, Seigneur, que tu trouves chez nous une oreille qui t'est attentive, un cœur qui t'est complètement acquis, et un terrain dans lequel, Seigneur, cette semence d'aujourd'hui peut profondément s'implanter, croître et venir apporter un fruit qui te sera agréable, non seulement de notre vivant, mais aussi, Seigneur, pour l'éternité. Alors je prie, Seigneur, et j'appelle ta bénédiction et ta grâce sur la vie de ma sœur. Je fais de même, Seigneur, pour mon frère. Je demande, Seigneur, que ton esprit saisisse notre entendement, notre compréhension, et que tu te révèles à nous. Merci d'être présent. Merci de nous accueillir en ta présence et merci de répandre sur nous tes bénédictions que tu as préparées de toute éternité pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale du jeudi 26 novembre 2020. On continue et on complète cette semaine notre étude qui était intitulée « Instruction à mon enfant ». On a tiré connaissance et puis exhortation de Proverbes au chapitre 3 du verset 1 au verset 12 et aujourd'hui on étudie donc la dernière phrase du verset 12. Je vais quand même lire pour vous le verset 11 et 12 qui était la base pour cette semaine. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je répète le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Important ce matin de rappeler effectivement que on parle de Dieu, on parle de celui qui est, de celui qui existe, de celui qui est parfait dans tout ce qu'il fait, de celui qui est à la hauteur même de ce qu'il affirme à son propre sujet. Notre Dieu est amour et comme on l'a vu tout au long de cette semaine, lorsqu'on parle de la question du châtiment, de la correction, de la discipline, il nous faut ramener ça non pas dans un aspect de toute correction humaine qu'on a eu à connaître ici-bas, mais ramener ça à la portée même de notre Dieu, celui qui est parfaitement bon, celui qui est parfaitement amour, celui dont la compassion n'arrive jamais à terme et dont les bénédictions se renouvellent chaque matin. Et malgré tout, ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui m'aime, parce qu'il est notre Père. Et ce matin, on le revoit encore au début de la semaine, on a vu essentiellement que nous étions enfants, enfants de Dieu. Aujourd'hui, on parle davantage de la question de notre Père céleste. Et on s'est dit au tout début de notre enseignement cette semaine que Dieu prend tout à fait son rôle de Père à cœur. Hier, et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire en fait de quelqu'un qui m'est cher. Je vous parlais de lui en début de semaine en vous disant que c'était un jeune homme que j'avais accompagné tout au long de sa jeunesse et qui aujourd'hui était un des meilleurs bassistes qui existe, qui est reconnu tant au Québec qu'à l'extérieur et qui est aussi un homme de Dieu que je respecte et j'apprécie. Hier, je lui écrivais ou je lui envoyais un petit message pour son anniversaire qui est aujourd'hui. Et il me répondait en me disant que j'avais été un papa, mais pas simplement un papa spirituel, mais que j'avais rempli le rôle aussi de celui qui lui faisait défaut pendant un certain nombre d'années. Et je rends grâce au Seigneur d'avoir pu jouer ce rôle-là envers ce jeune homme qui m'est toujours très, très précieux. Et qui compte énormément pour moi, et d'avoir pu jouer ce rôle de père. Lorsqu'on a eu cette entente, plus ou moins, où j'étais effectivement, je jouais un rôle de père pour lui, je me suis J'ai pris toutes les responsabilités qui venaient aussi avec un papa, de lui assurer un suivi, de lui assurer des garde-fous dans certains pas, dans certaines phases de son existence, de lui amener aussi une lumière différente sur certains sujets de sa vie, de l'encourager, de lui faire expérimenter des choses. Il a connu son premier smoke meet avec moi. Il est devenu amoureux de la même voiture que moi lorsque on est allé ensemble il y a bien des années au salon de l'auto. Ce genre de paternité est encore meilleur en fait que Dieu exerce avec nous et sur nous. Dieu prend toutes ses responsabilités de père. Le mot père et le mot Abba, Abah en hébreu. Dans la formule ici, il est abrévié, c'est ab, donc apostrophe ab. Je répète, apostrophe ab. Et il y a quatre déclinaisons de ce père-là. Père ab veut dire, oui, le père, celui qui exerce une paternité, celui qui est un père qui peut être d'ordre physique tout comme d'ordre spirituel, qui est celui qui exerce la position de prédécesseur sur quelqu'un, de celui qui engendre aussi quelqu'un. Très souvent, ce que nous sommes vient du fait qu'on a eu les personnes autour de nous qui nous ont influencés et les premiers influenceurs de notre vie. Les premiers impacts qu'on a de quelqu'un dans notre vie, c'est essentiellement notre père et notre mère. Et assurément, il y a des choses de la personne de Florent, il y a des choses de la personnalité de Florent, il y a des choses de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, de ce que j'apprécie, de ce que je n'apprécie pas, qui vient essentiellement de mes parents et particulièrement de mon père. Donc notre Seigneur, en tant que père, cherche à nous influencer. Mais ce bon père, c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc dans ce rôle de correctif qu'il va apporter, il va l'apporter comme un père qui connaît toutes choses et qui sait ce qui est approprié pour son fils et pour sa fille. Alors Dieu, oui, va se manifester comme un père, comme un papa dans ta vie, en essayant de te tracer un chemin, en essayant d'ouvrir une voie devant toi qui est effectivement la voie qui mène en sa présence et la voie qui mène vers la félicité éternelle. De surcroît à cette notion de paternité, le terme Ab, père, va aussi parler de celui qui est le chef, qui est la tête ou qui est le fondateur d'un regroupement. Et ça peut être un regroupement qui serait familial avec un papa naturel, mais ça peut être aussi la notion d'une entreprise, d'une équipe, d'une fondation, d'un regroupement d'hommes. Et notre Dieu n'est pas dans les rangs arrière de ce regroupement. Notre Dieu est à la tête. Et de ce regroupement qu'on appelle l'Église, qui est le regroupement des saints, le regroupement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, la Bible nous dit qu'effectivement Christ est la tête et que nous sommes en tant que membres de l'Église, nous sommes le corps, mais que lui reste la tête. Et la tête décide ce que les membres font. La tête décide les actions que les membres vont poser. Lorsque je lève ma main droite, c'est d'abord une réflexion, une décision que mon cerveau, que ma tête va envoyer à ma main. Et ma main va obéir à ce que mon cerveau lui demande. Donc Christ est la tête et en tant que Ab Père, il occupe aussi le rôle de pole position où il dirige, où il conduit. Et où il veut conduire, et où il veut diriger, et où il voudrait, où il devrait plutôt diriger et conduire. Encore faut-il effectivement que le restant du corps soit assujetti à son leadership et accepte son leadership. Mais lorsqu'on parle effectivement du père Ab, alors Dieu va prendre effectivement le rôle qui lui sied à perfection, celui de papa, celui aussi de chef et de fondateur. Un des aspects qu'on oublie souvent dans la notion de Ab, Abba ou Père, c'est la notion de parrain. Dans les milieux évangéliques, dans les milieux protestants, C'est beaucoup moins présent que dans l'Église traditionnelle catholique où on a le baptême des enfants. Et lorsqu'il y a le baptême des enfants, il y a aussi la nomination d'un parrain et d'une marraine. Ces gens-là qui, selon la tradition, l'objectif était que si les parents venaient à mourir, ceux qui avaient premier droit de regard et qui avaient responsabilité sur l'enfant qui était maintenant orphelin, c'était donc son parrain et sa marraine. Avec le temps qui a passé, cette notion-là, puisque le taux de mortalité a baissé, puisque la santé fait en sorte que les papas et les mamans peuvent vivre beaucoup plus longtemps qu'autrefois, que la maladie, on y résiste quand même mieux que dans les siècles passés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de parrain, on parle essentiellement de quelqu'un qui va avoir, qui n'est pas le parent de l'enfant, mais qui va avoir une incidence, qui va avoir un apport rapproché dans la vie d'un enfant, d'un poupon, puis dans le restant de son existence. La notion de parrain, ça va plus loin que ça. La notion de parrain, telle que comprise aussi dans la culture juive, un parrain était quelqu'un qui introduisait à une profession, qui introduisait à un groupe restreint. Lorsqu'on voulait devenir membre du Sanhédrin, qui était un groupe religieux et politique juif très conservateur, pour être membre du Sanhédrin, tu ne pouvais pas tout simplement te présenter en disant ben, j'aimerais signer un papier pour être membre ou j'aimerais payer une cotisation pour être membre. Il fallait à tout prix que quelqu'un vous introduise parmi le Sanhédrin et propose votre candidature pour éventuellement être membre. Alors, Paul, qui était membre du Sanhédrin, avait été parrainé par quelqu'un pour rentrer dans ce groupe qu'on appelle le Sanhédrin. Quand on parle de père ici, on parle aussi de cette fonction que Dieu va prendre, qui nous parraine à nous pécheurs, qui nous parraine à nous qui sommes en fait des enfants adoptifs de Dieu, pour nous introduire à la maison d'Israël, pour nous introduire à l'Israël spirituel, pour nous introduire dans l'Église. Et c'est Dieu lui-même qui fait ce travail d'ouverture de porte. Et voilà pourquoi il est intéressant de savoir que lorsque lui ouvre une porte, personne ne la ferme. Et lorsqu'il ouvre la porte pour chacun d'entre nous vers l'Église et vers le corps de Christ, personne ne peut fermer cette porte. On peut refuser d'y entrer, on peut se soustraire au parrainage de Dieu et puis vivre notre vie comme on veut. Mais pour être introduit à l'Église, ça nous prenait que Dieu lui-même ouvre les portes et nous parraine et nous permettre d'entrer dans ce corps restreint qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Donc oui, comment Dieu l'a fait? Mais il le fait à travers son Fils qu'il a donné pour le salut de l'humanité. Il le fait, et la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans ce chemin, il y a cette notion de nous introduire vers la vérité, de nous introduire, de nous mener vers la vie. Alors Dieu lui-même pourvoit ce parrain pour nous, afin que nous soyons, que nous ayons en fait accès à la famille de Dieu. Mais lorsqu'on parle d'un parrainage pour rentrer dans un groupe, la personne qui nous parraine se porte aussi garante de nous. Et c'est là aussi où la notion de Dieu juge, mais de Christ, notre avocat, vient en jeu. Notre avocat se présente lors de notre procès et dit: cet homme, cette femme a été justifié par le sang que j'ai versé à la croix, par le sacrifice que j'ai eu à porter à la croix, mon fils Florent a accès au peuple de Dieu et a accès à la présence de Dieu. À cause du sacrifice versé à la croix, ma sœur a effectivement accès à la toute présence et à la toute puissance de Dieu. Mon frère, par ce même sacrifice de Christ à la croix, a aussi accès, libre entrée, et Jésus se porte garant pour toi en disant: le sacrifice que j'ai accompli est suffisant pour la rédemption, le salut, le rachat, et la vie éternelle de ce fils et de cette fille. Donc Dieu est notre Père, Dieu est notre chef, Dieu est notre parrain qui se porte garant de nous et qui nous introduit à la maison de Dieu. Et il le fait parce qu'il nous aime. Mais non seulement nous aime-t-il lorsque, comme on l'a vu hier, ses désirs se portent vers nous. Nous sommes aussi dans ce terme Ahab qu'on a vu hier, aimé, qui voulait dire aussi ami. Nous sommes ses amis si nous obéissons à ce qu'il nous commande. Donc effectivement, lorsque nous devenons partie prenante de la maison de Dieu, lorsque nous devenons partie prenante du corps de Christ, nous devons aussi vivre avec les règles, avec les principes, avec les commandements, avec les préceptes propres à la maison royale et propres à la maison de Dieu. Donc il y a des standings, il y a des niveaux d'implication, il y a une rigueur quant au comportement, quant au mode de vie, quant aux paroles, quant à l'attitude qui est propre à un enfant de Dieu. Et Dieu va nous regarder, Dieu va nous juger. Et Dieu va nous amener en jugement. Il amène qui en jugement? On a parlé du Père. Lundi, on a parlé de l'enfant. Il amène, et on se rappelle de lundi, on a dit que non seulement on était progéniture de Dieu, donc lui nous crée en tant qu'enfant de Dieu, lui nous permet de renaître, de revenir à la vie, de connaître une vie nouvelle. Et de vivre cette vie en accord avec sa parole. Mais de surcroît à cela, on avait dit aussi qu'on était membre d'une guilde, membre d'une famille royale, membre d'une nation sainte, membre de l'Église, et que ce membership-là impliquait effectivement un code de conduite, un code moral, un code de vie propre à la famille de Dieu. Donc Dieu juge comment effectivement je me comporte par rapport à cette morale qui est la sienne. Dieu juge mes actions pour voir si celles-ci calquent bien, cadrent bien avec ces standards de dignité, de sainteté, de sanctification. Et la Bible nous dit ici, il va nous juger comme un père chérit son enfant. Et on ramène, c'est le père excellent. Donc il nous juge parce qu'il nous chérit. Et voilà ce que veut dire le terme chérir, le terme ratsa. Ratsah. Ratsah, chérir. Ratsah. Il y a cinq déclinaisons qui sont intéressantes à étudier ce matin, qui vont ouvrir un peu notre perception au terme simplement chérir. Lorsqu'on chérit quelqu'un ou lorsqu'on chérit une chose, c'est que cette chose ou cette personne nous sont agréables et plaisants. Ça veut dire que Dieu peut trouver plaisir dans ta vie. En fait, Dieu veut trouver plaisir dans ta vie. Lorsqu'il nous sauve, déjà c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre bien, mais peux-tu comprendre que d'un être si infime comme moi et toi, un être qui a été taché, corrompu par le péché, un être qui avait le dos tourné à Dieu et qui le rejetait, Dieu vient à prendre plaisir dans ma vie. Et pense, quand tu prends plaisir pense au meilleur repas que tu as goûté de toute ta vie. Pense à un mets en particulier que tu affectionnes particulièrement. Pense peut-être à un événement sportif qui est comme l'événement sportif que tu as vu de toute ta vie. J'en ai plusieurs. J'en avais un d'un coureur canadien qui a gagné à Séoul, qui a perdu le lendemain pour doping. Mais ce moment où il franchit la ligne, le bras levé, le doigt levé en disant qu'il est le numéro un, ça a été un moment d'extase profond. Ça a été un moment de joie profonde dans laquelle j'ai crié, j'ai jubilé. C'était plaisant. Dieu, lorsqu'il veut prendre plaisir en toi, c'est qu'il est aussi capable d'avoir cette même manifestation. La Bible nous dit qu'au ciel, lorsque un pécheur se repent, Il y a beaucoup de joie. Et le mot joie qui est utilisé dans ce contexte-là, on parle d'une joie qui est exubérante, une joie qu'on ne peut pas retenir, une joie qu'on ne peut pas contenir. Ça veut dire que lorsque moi je viens à Christ, que je me repens de mon péché, il y a une espèce de joie grandiose, exubérante, incontrôlable qui saisit le ciel parce que moi je suis venu à me repentir devant Dieu et à faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut donc dire que Dieu peut, oui, tout à fait prendre plaisir en toi. La Bible nous dit que David avait un cœur, était un homme selon le cœur de l'Éternel. Ça veut donc dire que Dieu prenait plaisir à David. Dieu va dire que Abraham est son ami. Ça veut donc dire que Dieu prenait plaisir en son ami, Abraham. Est-ce que Dieu peut prendre plaisir en toi? Oui, il le veut. Est-ce qu'on va mener cette vie qui fait en sorte que Dieu peut se réjouir? Si j'obéis effectivement à ses préceptes, si je reçois sa discipline, les correctifs, les réprimandes, si je reçois favorablement son enseignement qui modèle et qui altère ma façon de faire pour la rendre parallèle à sa volonté, pour la rendre similaire à sa parfaite volonté, alors effectivement, Dieu peut prendre plaisir dans ta vie. Si petite soit-elle à tes yeux, le Dieu Tout-Puissant peut se réjouir. Tu peux être un sujet de joie et de réjouissance pour Dieu. Je ne veux pas rater cette occasion-là et j'espère que tu ne la rateras pas non plus. Lorsqu'on parle de chérir, on parle aussi de ce qui est favorable. Nous sommes favorables à tel plat que maman préparait. Il y a un gâteau en particulier que ma mère faisait lorsque j'étais petit. C'était un gâteau tout simple. Il y avait plusieurs versions. Il y avait celui avec des biscuits qu'on imbibait de café. Et par la suite, il y avait une espèce de pudding au chocolat, mais fait comme ma mère seule le savait, avec du maïzena ou quelque chose comme ça, et qui faisait que ce dessert-là était juste génial. Tout simple, un dessert de jour de semaine, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais c'était un dessert qui était à se rouler par terre. Et encore mieux, il y avait la version gâteau du commerce. En poudre qu'on fait, on ajoute simplement 2 œufs et puis du lait ou de l'eau à l'orange avec ce même pudding au chocolat bien consistant, bien ferme. C'était génial. J'étais favorable. À peine je pense à ce dessert et ce dessert m'emballe comme je me rappelle les saveurs de ce goût-là. Est-ce que tu suscites la même chose? Est-ce que la vie que tu offres à Dieu peut effectivement, peu importe que cette vie soit modeste, peu importe que les résultats aux yeux des hommes ne soient pas l'acclamation. Regardez ce dessert-là, là, on va pas le trouver dans les grandes pâtisseries parisiennes et dans les grands restaurants qu'on peut avoir dans nos villes. C'était un dessert tout simple, mais ce dessert avait mon approbation. Ce dessert, j'y étais favorable. Lorsque Dieu te regarde, lorsque tu mènes ta vie selon les commandements et les préceptes de Dieu, lorsque tu as bien reçu la correction de Dieu dans ta vie, eh bien cette vie-là devient favorable à Dieu. Il l'approuve et il pose son sceau d'approbation dessus. Troisième connotation pour Ratsa, accepter. Non seulement Dieu est favorable à ta vie, non seulement tu es plaisant à Dieu, mais Dieu t'accepte. Il t'accepte en tant qu'enfant. Il t'accepte en tant qu'enfant adoptif qui devient tout à fait enfant légitime dans tous ses droits, dans toutes ses fonctions, dans toutes les bénédictions et privilèges qui sont accordés à un enfant de Dieu. Lorsqu'effectivement je mène ma vie selon les correctifs que Dieu a voulu y apporter, lorsque j'ai accepté la discipline de Dieu qui a altéré, modifié, qui a peaufiné mon existence pour qu'elle cadre avec la volonté de Dieu, effectivement, je deviens accepté. Mais plus encore, Ratsa veut aussi dire satisfaisant. Ça veut dire que Dieu te regarde et il dit, mon fils, je suis satisfait de ta vie. Mon fils, je suis satisfait de ton résultat. C'est comme s'il te donne une tâche, il te donne un travail à faire, et à la fin du travail, il regarde la chose et il sourit et il te lève le pouce en disant, bon job, bon boulot, tu as bien bossé, je suis fier de toi. Et c'est ce qui nous attend lorsqu'on va pénétrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Rappelons-nous la phrase qui nous accueille lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Donc Dieu donne son approbation, Dieu donne son sceau d'approbation, Dieu est favorable au travail que tu as fait, Dieu accepte l'offrande que tu lui donnes et Dieu est satisfait de la vie que tu as menée et il te dit bon et fidèle serviteur. Et là, cette joie, il te dit, rentre dans la joie de mon maître, de ton maître. Il est donc tellement heureux qu'il ne garde pas la joie pour lui-même, mais il te dit, cette fête dans laquelle tu m'as amené, cette fête dans laquelle tu m'as poussé, je te demande de venir la partager avec moi. Cette joie, je demande que tu viennes la découvrir avec moi. Alors, non seulement Dieu se réjouit de ta vie, mais il fait en sorte que cette réjouissance majestueuse qu'il a, il la partage avec toi et il t'accueille dans cette joie ineffable. Et enfin, Ratsa va dire chercher la faveur d'une chose. Donc, Dieu cherche ce qui est en ta faveur. En fait, c'est un peu le principe qu'on a vu la semaine dernière. Si nous rendons Dieu lourd dans notre balance, si nous l'honorons, il va aussi nous honorer. Et on a vu qu'il honorait le travail de nos mains. Donc on le bénit avec notre travail et lui bénit notre propre travail afin que ce cycle-là de bénédiction mutuelle, de bénédiction ensemble ou commune puisse croître, croître et croître. Donc Dieu effectivement cherche ce qui est en ta faveur. Quand il te corrige, quand il modifie tes actions, quand il réprime certaines de tes facettes pour en favoriser d'autres, lorsqu'il te pousse au changement et lorsque même à l'occasion il te sanctionne, c'est pour pousser chez toi le meilleur. C'est pour amener de ta vie celui et celle que tu es supposé être lorsqu'il pensait à toi de toute éternité. Notre Dieu t'aime. Notre Dieu, lorsqu'il apporte ses correctifs sur ta vie, c'est pour ton bien. C'est pour te permettre de lui être agréable. C'est pour lui permettre de t'accorder ce sceau d'approbation. C'est pour lui permettre de t'accepter dans sa présence. C'est pour lui permettre de partager avec toi sa félicité, sa joie. C'est pour lui permettre de te donner accès à tout ce qu'il y a de meilleur pour ton existence. Alors voilà pourquoi Salomon avait compris cette chose-là. Salomon avait compris cette notion selon laquelle si on ne méprisait pas la correction de Dieu, si on ne s'effrayait pas de ses châtiments, si on ne fuyait pas devant sa discipline, il savait que c'était pour notre bien et qu'on allait en ressortir encore plus béni. On ne pouvait avoir accès à la parfaite et complète et à la plénitude de la bénédiction de Dieu que si Dieu apportait ses changements et ses correctifs dans notre vie. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement. Cette période de COVID est demandante et est exigeante. Cette période de COVID nous amène à voir certaines limites de notre existence, dans notre patience, dans notre tolérance à des circonstances qui sont contraires à celles qu'on avait l'habitude de connaître. Peut-être que ça te pousse dans certains retranchements où tu te dis « Wow, j'ai ma patience qui devient courte, j'ai ma douceur qui devient fragile. Peut-être que Dieu te montre que lorsque tu n'es pas pris avec un horaire chargé, tu as peut-être tendance à t'éloigner de lui. » Et aller mettre tes yeux, mettre tes actions dans des domaines qui ne le glorifient pas. Peut-être que Dieu s'est servi de ces derniers mois pour te dire, mon fils, ma fille, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être modifiées dans ta vie. Peut-être que Dieu t'a réprimandé pour des actions, pour des paroles, mais assurément, s'il le fait, que ce soit en te réprimandant ou en te sanctionnant, c'est pour faire de toi un meilleur serviteur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, il se reconnaîtra, cette personne-là se reconnaîtra, qu'elle soit un homme ou une femme. Il y a quelques années, cette personne est venue me voir dans mon bureau en me disant, Pasteur, je vais demander à être démis de toutes mes fonctions parce que j'ai péché contre Dieu. Et j'ai dit à cette personne que ce n'était pas elle qui allait se démettre de ses propres fonctions, mais c'était moi en tant que pasteur que je devais lui retirer donc toutes les fonctions que cette personne occupait jusqu'à ce moment-là. Et cette personne est passée par un temps de discipline. Et ça a été peut-être la première personne auprès de qui je mettais une discipline sans avoir l'input du pasteur Fontalvo qui était à ce moment-là décédé. Et c'était moi qui prenais la responsabilité ou de l'instruire et de l'aider pendant cette période de discipline. Bien des années plus tard, je vois cette même personne qui sert de nouveau dans les fonctions qui avaient été les siennes avant la chute. Une personne qui a été restaurée, une personne qui a été rétablie et une personne qui exerce son ministère avec tellement d'entrain, avec tellement de cœur, avec tellement de passion, et c'est parce qu'elle a accepté la discipline que Dieu plaçait sur sa vie pendant ce temps-là pour le corriger, pour changer sa façon de faire, pour changer ses habitudes, et le Seigneur a fait de cette personne un ouvrier ou une ouvrière tellement précieuse pour l'Église locale. Plusieurs d'entre vous, sans le savoir, avez bénéficié ou avez des proches autour de vous qui bénéficient de l'onction de cette personne et du travail de cette personne. Alors, je sais que tu m'entends actuellement. Je te félicite de ne pas avoir réprouvé la discipline que Dieu plaçait sur ta vie, de l'avoir embrassée et je suis tellement fier de ce que tu es devenu. Ce faisant, c'est devenu un bon ou une bonne ouvrière, un bon ouvrier, une bonne ouvrière pour Dieu. Un fidèle ou une fidèle servante, un fidèle serviteur ou une fidèle servante qui un jour pourra entrer effectivement dans la joie de son maître. Lorsque Dieu nous discipline, c'est pour nous rendre meilleurs, pour nous permettre de partager avec nous la joie qu'il a à nous voir grandir, à nous voir œuvrer, à nous voir travailler pour lui. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole. Alors permettez-moi simplement de prier un peu et après ça, on va saluer quelques personnes et vous donner donc les prochains rendez-vous. Alors merci Seigneur d'être un Père dans notre vie. Merci Seigneur de nous corriger. Et merci Seigneur de ce que tu nous fais comprendre aujourd'hui, que cette correction, c'est parce que tu nous aimes, parce que tu veux prendre plaisir en nos vies et parce que nos vies, si petite soit-elle, si faible soit-elle, nos vies peuvent être un sujet d'explosion de joie dans le ciel. Seigneur, non seulement on ne veut pas te priver de cette joie, mais on veut que tu en jouisses pleinement. Parce qu'on sait, Seigneur, que si tu prends plaisir dans nos vies, cette joie, tu vas la partager aussi avec nous. Tu vas nous permettre et tu vas nous amener à entrer dans une même joie, dans cette joie éternelle à laquelle tu nous convies. Merci Seigneur parce que tu mets ton sceau d'approbation sur nos vies. Nous qui étions pécheurs et iniques, nous qui étions manquements et iniquités, tu nous sanctifies, tu nous purifies et tu fais de nous des vases d'honneur pour toi. Seigneur, ce vase qu'on croit être de peu d'importance, ce vase, Seigneur, qui aux yeux des hommes peut être vil d'importance et d'utilisation, pour toi, Seigneur, c'est un vase d'honneur, duquel tu tires gloire à l'utiliser. Seigneur, c'est de ma sœur que tu parles, c'est de mon frère, Seigneur, qu'on parle ce matin. C'est de ma vie, Seigneur, qu'on parle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir été accepté. Merci, Seigneur, d'être satisfaisant à tes yeux. Merci de te satisfaire du travail de mes mains, de l'offrande que je t'apporte. Merci, Seigneur, de chercher ma faveur. Mais tout cela, Seigneur, vient parce que tu as apporté les changements qui se devaient dans nos vies. Tu as amené les correctifs qui s'imposaient en nous. Et Seigneur, nous n'avons pas raidi le cou. Nous n'avons pas détourné le regard. Nous ne sommes pas éloignés de ta discipline. Mais nous l'avons accepté, embrassé, reçu, sachant, Seigneur, qu'elle nous était profitable, qu'elle était appropriée et juste, et qu'elle cherchait notre bien. Alors merci, Seigneur. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Et merci, Seigneur, de continuer ton œuvre dans ma fille, dans mon fils. Merci de continuer ton œuvre dans ma sœur, dans mon frère. Merci de continuer ton œuvre dans la vie du pauvre serviteur et du faible serviteur que je suis. Pour rendre ma vie, Seigneur, à l'image de Christ. En toute chose, Seigneur, sois loué. Sois adoré par nos paroles, par nos actions, par nos pensées, par tout ce que nous sommes. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, permettez-moi de monter un peu l'écran pour voir qui s'est joint à nous depuis tout à l'heure. Je remonte. D'accord, on était ici. Donc, simplement vous rappeler que demain, c'est notre journée de jeûne et de prière avec deux rencontres importantes. Donc, demain matin, dernière bénédiction matinale de la semaine. Ce sera un temps de prière essentiellement. Et demain soir, on clôture notre journée de jeûne et prière à 19h avec notre rencontre d'intercession et de requête et de prière. Donc, 8h30 demain matin, bénédiction matinale consacrée au jeûne et à la prière de ce jour. Et puis, demain soir, 19h, pour clôturer la journée ensemble. Alors, qui nous a rejoints? J'ai déjà salué bien des personnes en début de séance. Donc, ceux qui se sont joints en cours de route, bonjour à Marie Huguette, bonjour à la sœur Susanna, bonjour à la sœur Florie, bonjour à la sœur Diana, bonjour à la sœur Immacula, bonjour à Natacha, à Indirène et aux filles, bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Farley, à la sœur Marie-Andrée. Bonjour à Maggie. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à Hélène, Dieu te bénisse. J'ai salué ton frère tout à l'heure. J'ai salué le fils qu'il est pour moi. Donc, je voulais que tu le saches. Je sais que ta maman est là aussi. Et je sais qu'elle aime cette relation que j'ai encore après toutes ces années avec Paul. Donc, que Dieu te bénisse, Hélène. Je prie pour toi, je prie pour ta petite famille et je prie pour ta maman. Soyez tous bénis, toutes bénies. Bonjour à Martha Lucia, bonjour à Denise de Laval. J'ai été en conversation avec votre pasteur hier, une bonne conversation avec le pasteur Thévenot hier sur différents sujets. Et il nous a dit effectivement que vous lui disiez apprécier les bénédictions matinales. Donc, on est bien content que ça vous bénisse, effectivement. Soyez bénis, Denise. Bonjour à Evelyne. Bonjour à Rosie. Bonjour à Frédéric Guillaume. Soyez bénis. Bonjour à Ramon. Bonjour à Adriana. Bonjour à Babette. À Andrés. Et puis, voilà, c'est tout aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Faites tout pour que Dieu se réjouisse de votre vie. Et que par conséquent, ils vous permettent d'entrer et aussi et partager avec vous cette même joie ineffable que vous pouvez susciter chez lui. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 8h30, et demain, 19h, pour notre temps de prière. Soyez bénis. Bonne journée dans la paix, dans la bénédiction de Dieu. Au revoir tout le monde.